Christophe nous a dit que à partir de ce moment-là, l'Église avait changé ce qui était les signes, prodiges et puissance de l'Éternel contre le pouvoir et quelque part l'approbation du pouvoir. Et à ce moment-là, on est rentré en repentance, on a demandé pardon pour la prostitution. Parce qu'à partir du moment où on échange ce que Dieu veut nous donner contre une autre forme de pouvoir, on rentre dans un temps où on dit voilà, ça me plaît plus tellement, je veux ça. Je troque une chose que Dieu m'a donnée contre une autre. Et c'est pas simplement l'esprit d'empire auquel on ouvre la porte, c'est l'esprit de prostitution. Et chaque fois qu'on désire un poste pour exercer un pouvoir, c'est l'esprit de prostitution auquel on ouvre la porte, même dans l'Église. Et je crois que simplement, c'était une des choses qu'on a pu vivre là-bas, et je pense que c'est pas fini. Il est temps, on va continuer à devoir se repentir de ça. Mais à ce moment-là, on a ouvert en grand la porte à la prostitution. Et de manière très étonnante, après, Rusty Jared m'a rappelé, il y a énormément de problèmes d'immoralité et de sexualité, perversion et de prostitution là-bas. C'est directement lié. Parfois, on prie pour les gens, mais en fait, au départ, l'Église a ouvert la porte à la prostitution. Voilà. Amen.
Dans 15 jours, tabernacle de louange. Voilà. Et puis, une dernière info, je vous rappelle, Renouve Alsace. La convention du 1er novembre au 4 novembre, au nord de Strasbourg, c'est donc en partenariat avec les églises luthériennes, charismatiques, et donc le contact s'est fait quand on était en camp d'église à Gagnères. Et nous savons que c'est l'église là-bas qui organise aussi des tabernacles de louanges, comme nous le faisons. C'est la même vision, c'est France en feu. Hein, et donc il y a longtemps qu'on avait envie d'établir un contact, et là c'est l'occasion. Puisque il y a différents intervenants comme Claude Payan et autres, donc axé pas mal sur Carlos Payan, axé sur la guérison divine, pas mal aussi. Et voilà, on s'attend à ce que Dieu agisse. Donc cette dimension du corps au niveau Alsace, ceux qui ont à cœur, mais vraiment, il y a des pliants devant. En tout cas, moi j'y serai, j'espère y être ces jours entiers, au moins quelques-uns. Voilà, n'oubliez pas ce temps-là. Oui, Anne. Voilà, donc s'il y a des jardins à nettoyer, il est prêt à le faire. Voilà, ils cherchent aussi tous des moyens de financement et chacun se débrouille déjà. Hein, et voilà, tu avais, Patrick ? Oui, ce soir, on continue de 19h à 20h30, jeûne et prière. Hein, donc lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Voilà, ce soir aussi. Hein. Voilà. Oui, oui. Les métaux non ferreux, voilà, sont récoltés pour financer le voyage. Voilà, c'est bon les annonces, on a fait le tour. Voilà, voilà. Donc juste quelques informations. Donc il y a deux cultes où je n'étais pas là. Il y avait un premier où il y avait une pastorale dans la région lyonnaise, et ensuite donc j'étais à Aix-en-Provence, à la fois pour la semaine d'études, mais à la fois aussi pour intervenir dans l'école chrétienne d'Aix-en-Provence. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de revoir nos amis Sadani, qui sont bien installés. Donc j'ai passé la soirée avec eux, et ils sont bien au pays des cigales. On ne les entend pas encore, mais ça viendra. Et voilà, donc ils cherchent un peu leur place encore. Hein. Je leur ai montré une communauté que je connaissais bien, qui s'appelle la communauté du chemin. Mais ils ont en même temps, il y a un groupe il y a aussi des églises nord-africaines hein, qui, dans la région de Marseille. Donc voilà, ils cherchent un peu leur place. En tout cas, ils ont déjà trouvé leur place dans l'école chrétienne. Et le directeur là-bas est très content. Donc je lui ai dit, écoute, là on t'amène du gratin. Là, il faudrait que tu sois conscient qu'il faudrait peut-être un retour. Hein, Donc voilà, mais il est très content parce que c'est une petite école et d'avoir des parents motivés, mobilisés comme ça, ils étaient vraiment contents. Voilà, alors aujourd'hui, je savais qu'on a partagé pendant trois cultes sur l'histoire de Josias en rapport avec ce que nous vivons ici. Et eh bien, il y a une autre histoire qui est en rapport avec ce que nous vivons ici, et c'est l'histoire de Caleb. Hein, vous savez que cette nouvelle association qui s'appelle Caleb, eh bien, c'est pas seulement une association, mais il y a quelque chose dans l'esprit que Dieu, j'aimerais vous communiquer, un caractère de Dieu dans le personnage de Caleb, un caractère qu'il veut qu'on puisse prendre recevoir par la foi. Alors je vous propose, il y a déjà des années en arrière, on avait parlé de ce Caleb, et là j'aimerais qu'on revoie ça, peut-être avec d'autres détails. Donc on va prendre quelques textes dans l'Ancien Testament, et tout nous parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Déjà, c'est comme des ombres, mais avec la révélation que Dieu nous donne, eh bien ça nous parle de lui. Alors il y a plusieurs textes, il y en a un premier dans Nombres, le livre des Nombres, chapitre 13, verset 30. Alors vous savez, c'est le peuple, il est allé explorer, les espions sont allés explorer la terre de Canaan, terre promise, et puis sur les 12, il y en a 10 qui n'étaient pas très chauds, hein, et puis il y en a deux, Caleb, Josué, bien sûr, qui ont dit, ben nous on est prêts. Alors verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse en disant, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, les enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, « Maman, au secours !» Donc ça c'est la version alsacienne. « Et le peuple pleura pendant toute la nuit. » Imaginez un peu, Dieu il dit, voilà le pays promis, l'héritage qui est pour toi, ils vont voir. Alors, nous, on pourrait dire, c'est trop cher, il y a trop de travail. Vous voyez, et ça, c'est le cœur de l'homme. Et alors, Caleb, bien sûr, ce n'était pas ce rapport négatif. Nombre 14, verset 7-8. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. C'est fou quand même, comme il y a les mêmes circonstances qu'on peut vivre. Il y a un rapport qu'on peut faire, c'est la cata, c'est pas possible, mais quel pays pourri et tout ça. Et puis l'autre, mais c'est génial, Dieu est bon, tout ça. Et c'est la même circonstance. Donc tout question de regard, hein. Tout est une question de regard. Alors ici, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, nous le donnera. C'est un pays où coule le lait, le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Vous savez, ils aiment bien prononcer ces paroles de foi, hein. Je crois que c'est important dans nos bouches de parler la parole, de parler cette parole de Dieu. Et pas seulement la prier, vous voyez, mais la prononcer et la dire comme un... Oui, avec foi, avec assurance. C'est ça que Dieu attend de nous. Alors, Caleb, juste on commence par un peu des généralités, mais il connaissait son Dieu. Et vous savez, il avait cette notion, bien sûr, lui ne disait pas qu'il était une petite sauterelle, hein, c'est les autres qui disaient ça, mais lui ne disait pas. Il avait conscience qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Et dans 1 Pierre 2,9, il nous est dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Afin que vous annonciez les vertus. Vous voyez, le but, ce n'est pas, ouais, on est saint, on est roi, tralala. C'est afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Hein ? Peut-être dis à ton voisin, tu fais partie du peuple de Dieu. Allez, tournez-vous, vos voisins, derrière, devant. Et c'est bon, il faut le croire ça. Hein ? Tu es le peuple de Dieu. Hein ? Alors, le peuple, vous savez, pendant le jeûne, là, il y a eu cette notion vraiment très claire, c'est revenu plusieurs fois, de cette notion, vous voyez, du corps et de chaque partie. Alors, il y en a qui disent, moi, je suis une petite partie sauterelle. Moi, mais attention, si t'es la petite partie du corps qui n'est pas là, si la jointure n'est pas là, il n'y a rien qui marche. Et on a vraiment eu le sentiment profond qu'il y a beaucoup de parties de ce corps qui ne sont pas encore bien, vous voyez, qui n'ont pas encore bien trouvé la place, mais qui sont essentielles. Tu es essentiel dans le corps du Seigneur. Tu es essentiel. C'est vraiment très important. Il n'est pas étonnant que justement parce que Dieu est en train de nous dire chaque partie est importante, chaque petite partie de ce corps, aussi insignifiante aux yeux des hommes soit-elle, eh bien, est importante. Ce n'est pas étonnant que pendant que Dieu dit ça, l'ennemi, qu'est-ce qu'il dit ? Le contraire. Tu n'es pas important, ce n'est pas ta place, tu n'as rien à faire, de toute façon, tout le monde s'en fout de qui tu es. Vous voyez, ce genre de pensée-là, ça vient en même temps que ce que Dieu dit. Et voilà, donc faisons attention à ça. On est d'un peuple élu. Et ça, c'était la clé de l'assurance de Caleb et de Josué. Ils connaissaient leur Dieu. Josué, le terme hébraïque, c'est Jésus. C'est sauveur. C'est exactement pareil. On pourrait dire Jésus. Voyez, en fait, Josué est une image de Jésus. C'est une préfiguration de Jésus. Et Caleb, c'est une préfiguration de nous. C'est pour ça qu'ils marchent tous les deux ensemble. Alors, notre Jésus, vous voyez, à nous, c'est le Seigneur, notre Josué. Et ce Seigneur, avec lui, il nous a donné d'explorer, dans la prière, dans l'esprit, des choses nouvelles. D'explorer, parfois, par l'imagination que Dieu nous donne, le pays de France différent. Un désert qui n'est pas un désert, qui n'est plus un désert. Et vous voyez, on a exploré comme ça ces choses-là, et maintenant, Dieu nous dit, voilà, maintenant, il faut y rentrer. J'ai souvent l'impression que enfin, les grands pas que j'ai dû faire avec Dieu, qu'on a dû faire aussi, c'est, j'ai vraiment l'impression qu'on ne les a pas choisis. C'est-à-dire, c'est comme si nous étions en train de marcher et il y a pas le choix, quoi. Les grands pas de foi, ben, je me rappelle, un des plus grands, ça a été le château. Ben, c'était où on prend le château, où on meurt, quoi. Donc, il n'y avait pas le choix. Il n'y a pas de gloire, si vous voulez, à faire des pas de foi. C'était ça ou la mort. En tant qu'église, là, on est serré comme des sardines, on donne des coups de bannière, il faut faire attention aux voisins, ça ne va plus. Il faut plus large. Alors Dieu nous dit, voilà, plus large, mais là, on dit, là, c'est quand même très large, quoi. Et vous voyez, on n'a pas le choix. C'est comme si Dieu nous pousse et c'est bon. Donc cet esprit de Caleb est vraiment important. Et nous faisons partie de ce peuple que Dieu s'est acquis à grand prix. Hein, nous sommes très précieux pour lui, la preuve, le prix qu'il a payé. Si tu veux une preuve de combien tu es précieux, c'est le prix qu'il a payé. C'est tellement, tellement important. Alors, nous sommes appelés, Dieu, pas seulement des enfants de Dieu en tant que dans son peuple, on a parlé des enfants tout à l'heure, mais nous sommes appelés à devenir des fils et des filles. Et on l'a déjà dit ici plusieurs fois, mais la différence entre un enfant et un fils, c'est qu'un enfant, il a son héritage qui l'attend, mais le fils, lui, il le prend. Voyez, le fils, c'est celui qui peut le recevoir. Dieu ne va pas confier son héritage à des enfants, même s'il sait que c'est pour eux, mais il va le confier à des fils. Donc Caleb, lui, était un fils. Et voyez, ce qui est étonnant, c'est que malgré la foi de deux, et bien l'incrédulité des 10 autres, Dieu est un Dieu de peuple, vous savez. C'est un Dieu de famille, c'est un Dieu de peuple. Il travaille jamais avec deux d'un côté, 10 de l'autre. C'est ou tout le monde ou personne. Et c'est pour ça que, quelque part, ça nous dit, ben, Seigneur, c'est pas évident ça, on est dépendants les uns des autres. C'est pour ça que c'est tellement important de trouver un ajustement ensemble, comme Patrick l'a dit en début de ce culte. Parfois on n'est pas ajusté parce que les uns vont plus vite, etc. Mais c'est important que ceux qui vont plus vite eh ben, s'attendent aux autres, et ceux qui sont un peu lents, tout ça, parce qu'on ne pense pas à prier, on ne pense pas à tout ça, ben, se disent, il faut que je rattrape les wagons. Il faut qu'on soit ajustés les uns avec les autres, parce que c'est tous ensemble qu'on doit prendre un nouveau terrain. Dans Galates 4, versets 1 à 7, il est dit, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Donc je pense que la maturité d'un individu, la maturité d'une église, c'est quand Dieu confie de plus en plus un héritage. L'héritage n'est pas quelque chose de physique d'abord, c'est quelque chose de spirituel, c'est des gens, c'est des esprits, c'est des âmes, c'est ça. Mais pour cela, il donne des moyens à son peuple. Dieu n'est pas un Dieu déconnecté des choses de la terre. Il sait très bien que si on veut toucher une ville, etc., il faut des moyens. Il sait très bien que ici on est coincé, ben si on veut s'attendre à d'autres, il faut plus grand. Donc Dieu, avant qu'il ait créé l'homme, il a créé un jardin. Et tout était prêt avant que l'homme soit créé. C'est la manière de faire de Dieu. Il prépare les choses. Avant d'envoyer son fils sur la terre, il a fait que l'Empire romain, il y ait la paix partout, les voies romaines, de façon à ce que l'évangile puisse être prêché. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas tout ça. Et ça peut se... Il a préparé. Dieu est quelqu'un qui prépare. Et donc, là, on ne va pas faire un... le bâtiment, ce n'est pas un but, c'est simplement la préparation de Dieu par rapport à un but qui est plus important, qui est un but de toucher les gens, d'amener son royaume dans le cœur, dans les mentalités, et de servir notre nation, notre ville. Voilà, alors ça c'est être des fils, et je dirais le ministère, Dieu nous a donné, il t'a donné à chacun de nous un ministère, et si vous voulez, le ministère c'est, si on regarde Jésus, Jésus disait dans Jean 17, 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Alors voyez, le ministère, c'est de répandre cette connaissance de Dieu. En fait, notre ministère, si on veut mettre un mot là-dessus, c'est amener le parfum de Dieu, la connaissance de Dieu autour de nous, le caractère de Dieu. C'est ça, le ministère. Et ça, Dieu a pour ça quelque chose pour toi dans ta vie. Notre vie est appelée à manifester la connaissance de Dieu. C'est ça le ministère. C'est ça que Jésus a fait. C'est ça le but. Vous voyez, si on veut une définition générale, c'est quoi un ministère ? C'est manifester la connaissance de Dieu. Voilà. Eh bien, au travers de nos vies. Alors ça, Caleb, c'était vraiment ce fils. Hein. Ce fils qui avait compris cette dimension d'héritage, ce fils qui n'avait pas peur, qui savait que si Dieu disait « je te donne quelque chose », même s'il fallait chasser des géants, eh ben, la promesse de Dieu, elle était là. Alors, Caleb, maintenant on va un peu plus loin, et bon, ils ont quand même failli être lapidés, hein. C'était pas facile, et il y a des temps, et je crois qu'il y a des temps personnels aussi, et ça c'est important, où Dieu t'appellera à des pas de foi personnels. Et parfois, tu auras l'impression d'être tout seul dans ce pas de foi. Il y a des moments de solitude dans la foi. Il y a des moments de solitude. Et Dieu les permet. Dieu les permet pour que on grandisse en lui. Et il y a parfois des pas de foi qui se font seuls. Et ça peut exister. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Il y a peut-être des circonstances pas faciles. Mais l'esprit de Caleb, il est en toi. C'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Caleb, Caleb, ça veut dire quoi ? Le mot leb en hébreu, ça veut dire cœur. Et cal, ça veut dire tout. Caleb, ça veut dire de tout son cœur. Donc ça, c'est déjà un point important. Et cette association qui naît, Caleb, c'est le complément, bien sûr, de Josué. Hein. Mais Caleb, ça veut dire de tout son cœur. Tout le cœur, entièrement pour Dieu. Alors je lis un commentaire d'un père de l'Église qui s'appelait Philon d'Alexandrie, dans les premiers siècles après Jésus. Il dit ceci, « Quant à Caleb, il est lui changé tout entier, car Moïse dit qu'il se forma un autre esprit en lui. » La Bible me dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Et le mot « esprit », vous savez, dans la Bible, c'est très proche du mot « cœur », d'un autre cœur. Il tirait ses idées d'une autre source que les autres. Il avait une autre mentalité, un autre cœur entier pour Dieu. Alors je continue, il disait ceci, « Sa partie raisonnable se transfigura en une suprême perfection, car le mot Caleb traduit signifie tout le cœur, symbole de ce que son âme ne balançait point ni d'un côté ni de l'autre. » Alors une autre chose sur Caleb, il est le fils de Jephunné, Josué 14, 6. Et Jephunné, ça veut dire conversion. Il est le fils de la conversion. Alors, c'est pour ça qu'il peut agir comme il a agi, penser comme il a pensé. Il avait un bel héritage, vous voyez. Donc, de tout son cœur, fils de la conversion. Alors, voilà pourquoi il pouvait agir ainsi. Vous voyez, nous sommes ici des fils et des filles de la conversion. Hein, la conversion, ce n'est pas un jour avoir pleuré sur nos péchés. La conversion, c'est changer de mentalité, changer de but de la vie, changer de priorité. La conversion, c'est changer la façon de gérer mon temps. La conversion, ça touche jusqu'à son porte-monnaie. La conversion, ça touche jusqu'au choix des amitiés que l'on fait, au choix de nos loisirs que l'on fait. La conversion, ça touche tous ces domaines. Et si on veut être avec l'esprit de Caleb, eh ben, c'est tout notre cœur que Dieu veut. Et notre cœur, je le répète, ce n'est pas seulement nos sentiments, mais c'est aussi notre raisonnement, nos façons de penser, notre volonté. C'est ça le cœur. Alors, Dieu veut tout notre cœur. Et il y aura sans Caleb, il n'y a pas de terre promise dans laquelle on va rentrer. Un jour, je me rappelle, je lisais dans Exode, lorsque Moïse dit à Pharaon, laisse-nous partir. Et Pharaon dit, oui, bon, les adultes, vous pouvez y aller, mais les enfants et les femmes, vous restez ici. Et un jour, une des premières grandes révélations reçues de Dieu, ça a été cette révélation que l'Église de France, Dieu ne la fera pas quitter l'Égypte sans ses enfants. Donc, tant qu'il n'y a pas un immense investissement au niveau de la génération qui vient, il n'y a pas de sortie d'Égypte possible. Il n'y a pas de Canaan possible pour l'Église de France tant qu'elle ne s'est pas occupée des enfants pleinement. Et Moïse dit, non, nous on ne part pas tous les adultes tout seuls. Non, nous c'est avec les enfants et les femmes ou personne. Et ça, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de Caleb, c'est tout entier. Alors, dans Josué chapitre 13, verset 1, il est dit, Josué était devenu vieux, mais il savait que la tâche n'était pas achevée. L'Éternel lui dit alors, tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Tous les districts des Philistins, tous les territoires des Guéchuriens, depuis Chicor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron, au nord, contrée qui est occupée. Donc le travail n'était pas fini. Le travail était loin d'être fini. Et voyez, c'est là que Dieu remet en scène Caleb. On l'a déjà vu au temps du désert. Et là, conquête de Josué, de Canaan, mais tout n'était pas pris. Et Caleb, le vieux Caleb, parce que maintenant il avait 80 ans et plus, il revient sur la scène. Josué 14, verset 6, Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Est-ce qu'il y a des circonstances qui sont là pour te décourager? Alors, c'est là que le « mais », il est là. Les circonstances, l'ennemi avait voulu me décourager. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Le « mais » là, il est tellement important. Il y a tout qui va à l'encontre. Je n'ai pas le cœur, je n'ai pas les sentiments, les circonstances de la vie, c'est difficile. Mais moi, je suivrai la voie de l'Éternel. Et dans ce « mais », vous avez le cœur de Caleb. Tous mes amis, personne ne craint Dieu là où je suis. Tout est moquerie, tout est tromperie. Mais moi, je suivrai l'Éternel, mon Dieu. Là, on a un Caleb. Et cet esprit de Caleb, c'est un esprit qui va à l'encontre de tout ce qui est autour de lui. Et être chrétien, c'est marcher à l'encontre du courant. C'est ça, être chrétien. Marcher à l'encontre des pensées qu'on peut avoir même, qui vont à l'encontre de nous et de la parole de Dieu. Marcher à l'encontre, marcher à contre-courant, ça c'est Caleb. Ça c'est l'esprit de Dieu en Caleb. Et voyez, ensuite on continue, donc verset 9, « Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Rendez compte, 85 ans, il a attendu la promesse longtemps, des années. Nous, parfois, au bout d'un an, on est là, on dit « Seigneur, la promesse, on est là ». Parfois, on combat 5 ans, 10 ans dans la foi. On dit « Mais tu te rends compte, 10 ans dans la foi ?» Et c'est toujours pas la réponse. Caleb, 45 ans d'attente. Et au bout de ces 45 ans, il dit « Donne-moi cette montagne ». Et ce n'est pas un petit truc qu'il demande, c'est « Donne-moi ». Vous savez, ça me rappelle Jésus dans le psaume 2, il est parlé de Jésus qui dit « Donne-moi les nations pour héritage ». Ça, c'est l'esprit de Jésus. Et Jésus nous dit, cet esprit-là, il faut que vous l'ayez, demandez, et je vous donnerai. Ça, c'est l'esprit de Caleb. Vous voyez, demande-moi. Et ce n'est pas la petite demande, Seigneur, si tu veux, si vraiment c'est ta volonté, si ça te fait plaisir. Ce n'est pas des prières que Dieu n'entend pas. Mais voyez, la prière qui dit, Seigneur, donne-moi ça. Alors ça, c'est... Et vous voyez, le cœur de Caleb, ce n'est pas pour lui qu'il demande. Lui, il a 85 ans, je veux dire, il était au bout du chemin, là. Mais pourquoi il demande cette montagne? Ce n'est pas pour lui, c'est pour la génération d'après. Et ça, c'est l'esprit de Caleb, c'est un esprit transgénérationnel qui dit, donne-moi ces choses-là pour la génération d'après. Et donc, nous devons, tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à le faire toujours avec la pensée de la génération d'après. Les décisions que nous prenons en tant qu'Église aujourd'hui d'agrandissement, peut-être ce n'est pas seulement pour nous, mais pour ceux d'après. Les décisions qu'on prend pour l'achat du terrain au Collège Daniel, ce n'est peut-être pas pour immédiatement, mais c'est pour plus tard, un lycée, tout ça. J'espère qu'on le verra de nos yeux, mais on prépare l'avenir et on prépare dans la foi. Et ça, c'est l'esprit de Caleb. Caleb a été fidèle. Dieu a dit de lui, Nombre 14, 24. C'est Dieu qui parle. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Vous voyez, il est allé, il a foulé déjà le pays. Hein, il n'est pas resté, il a foulé. Il y a des zones dans l'esprit et dans le terrain qu'on doit fouler. Les marches de prière et d'intercession qui ont été faites sont des marches où on prend le terrain. Dieu n'est pas un Dieu dans les vapeurs, c'est un Dieu de la terre aussi, et je crois que Caleb, il a dû fouler de ses pieds le pays avant que Dieu lui donne. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le fouler de nos pieds avant, dans la prière, dans l'intercession, mais aussi à un niveau physique. Alors, de cette montagne, apparemment, nul n'en voulait là. Il est le seul à demander cette montagne. Hein. Personne n'a demandé cette montagne. Aucun des 12 tribus n'a demandé cette montagne. Ben, évidemment, déjà que la plaine c'est dur avec les géants, mais alors une montagne avec une ville fortifiée dessus, il faut vraiment être malade pour demander le lieu le plus difficile. Hein, c'est Abraham, c'est comme Abraham avec Lot. Il dit, eh ben, choisis Lot, choisis ce que tu veux. Et puis choisis bien sûr tout ce qui est vert, tout ce qui est beau. Et Abraham se retrouve avec le désert. Mais Lot, il a plongé là. Après. Donc ça, c'est l'esprit de Caleb, c'est vraiment intéressant. Il demande le plus difficile, quoi. Parce qu'il sait très bien que s'il prend ce domaine-là, alors c'est stratégique. Vous voyez, si tu prends le domaine le plus difficile, alors tout le reste, c'est plus facile, quoi. Tu tiens la clé. Et nous avons ici un cœur intelligent qui résonne aussi avec sagesse. Et voilà, le « donne-moi » de Caleb, hein, « donne-moi cette montagne », ça c'est impressionnant. Hein. C'est le cri de Ésaïe 42 qui nous dit « restitue », c'est ce même cri qui dit, Jésus qui dit « parle à la montagne » et dis-lui « ôte-toi de là » et elle sautera. C'est toujours cet esprit de Dieu qu'on retrouve là dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Alors, il devait éradiquer les forteresses qui étaient dessus. Les forteresses, il fallait les prendre. Dans Proverbes chapitre 21, verset 22, 21-22, il est dit « Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. » Ça, selon Dieu, c'est la sagesse. Ça. Le sage, ce n'est pas celui qui est sage, comme on pense. Hein. Il est sage, il ne dit rien, il est vraiment sage. Il ne fait aucun problème. C'est un membre d'église. Super. On n'entend pas, aucun problème. Vous voyez, c'est pas cette sagesse qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on veut des problèmes. Mais voyez, le sage, c'est celui qui attaque la cité défendue par de vaillants guerriers. La sagesse, c'est attaquer. La sagesse, c'est attaquer. Alors, c'est pas attaquer comme on l'a dit, Constantin avec des armes, des armures, la croix, tout ça, on y va, on fonce. Ça, c'est nul. C'est avec ça, on est foutu là. On est déjà perdu d'avance. Mais c'est attaquer avec cet esprit de Dieu. C'est attaquer avec cette passion de Dieu. C'est attaquer avec des armes qui ne sont pas charnelles, justement, mais qui sont spirituelles. Les forteresses, c'est quoi? Eh bien, 2 Corinthiens 10, les forteresses de raisonnement, surtout dans notre pays, matérialisme, individualisme, humanisme, rationalisme, scientisme, on en parle souvent. Mais ces forteresses, c'est les vraies forteresses. Et c'est celles qu'on veut attaquer, c'est celles qui tiennent ce pays. On va revoir tout à l'heure dans la suite de l'histoire, cette histoire de Caleb et de forteresses. Alors je continue, toujours l'esprit de Caleb. Josué 14, 13. Josué, Jésus, bénit Caleb, fils de Jéphouné, fils de la conversion. Et il lui donna Hébron pour héritage. Alors là, Caleb, c'est un prince. C'est le seul qui a reçu une capitale comme héritage. Et vous savez ce que ça veut dire, Hébron? Ça veut dire union, mariage. Mariage. Hébron, c'était comme par hasard la ville où il y avait le tombeau d'Abraham, de Sarah, Rebecca, Jacob, Léa, Isaac. Et ça, il a reçu l'héritage des anciens. Donc, la vaillance de Caleb l'a greffé sur des puits anciens qui étaient tombés dans les camps de l'ennemi depuis longtemps. Et Josué lui dit, je te donne Hébron. Union. Union avec Dieu, mais union avec les choses du passé. Union avec la ligne d'Abraham, qui est la ligne de la foi. Parce qu'on peut être, comme les Juifs, Jésus leur disait, mais vous dites que vous avez comme père Abraham, mais ce n'est pas vrai. Votre père, c'est le diable. Si vous aviez comme père Abraham, et vous aurez la foi d'Abraham et vous reconnaîtrez qui je suis. Donc ça, héritier, Hébron, ça veut dire union. Il retrouve l'héritage des choses anciennes. Et puis, rappelez-vous aussi, on voit ça dans Job, Josué 15, versets 13 à 16. Alors là, c'est une petite histoire. On donna à Caleb, fils de Jephunné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirijat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Vous savez ce que ça veut dire, Anak ? Ça veut dire vaine humilité. Anak. Et la vaine humilité, voilà, terminée. On est des petits chrétiens, il ne faut pas faire de bruit, tout ça. On est gentil, il ne faut pas trop forcer les choses. Vaine humilité. Il y a une humilité parfois qui n'a rien du Christ, vous savez. Et puis en fait, on se cache derrière ça, on cache nos peurs, nos craintes et tout ça. Et donc, on lui a donné cette ville d'Hébron et qui appartenait à Anak. Alors ensuite, autre chose intéressant, j'ai trouvé ici, Caleb, il a chassé les trois fils d'Anak. Trois fils. Alors, encore intéressant, c'est incroyable cette parole comme elle parle, mais le premier, il s'appelait Shéchaï. Shéchaï, ça veut dire en dehors de moi, en dehors de Dieu. Dégagé. Tout ce qui est en dehors de Dieu, de toi, dégagé. En Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, je demeure en toi, demeurez en moi. Donc ça, ce fils-là, dégagé, Édin. Deuxième, Aïman. Aïman, ça veut dire frère sans sagesse. Deuxième, dégagé, Talmaï, ça veut dire précipice. Ben oui, tous ces mauvais fruits, tout ça, ça tombe, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui germe, c'est des gouffres sans fin. Eh bien, ça, c'est terminé. Vous voyez, donc, les trois fils virés. Ça, c'est Caleb, quoi. Ça, c'est l'esprit de Caleb. Et je crois que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Caleb en nous. Et il veut nous aider à vaincre ces fils-là. Et alors, de là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiryat Sefer. Alors, Débir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire parole, dabar en hébreu, dabar, parole. C'est que des consonnes, donc D-B-R, dabar, la parole. Mais avant, cette ville s'appelait Kiryat Sefer, ça veut dire la ville des lettres et des sciences. Donc la ville des lettres et des sciences était dans les mains d'Anak. Et quand Caleb a dit « moi je vais prendre cette ville », c'est qu'il reprend la ville des lettres. Et ça, c'est toute la sagesse humaine qui a été enfermée pendant tellement longtemps dans des écoles sans Dieu, des universités sans Dieu, Dieu qui était mis dehors, les gens sans Dieu, en dehors de lui. Tout ça, c'est les fruits de cette ville. Et Caleb arrive et dit maintenant, terminez ça. Et donc, il reprend cette ville des lettres pour le Seigneur. Parce que le Seigneur est celui qui veut redonner à des Daniels aujourd'hui de la sagesse dans les lettres et dans les sciences. Daniel chapitre 1. Et tant que l'Église ne s'occupe pas des lettres et des sciences, elle n'a pas repris comme Caleb la montagne et la ville des lettres. Et tant que cette ville elle est dans les mains de l'ennemi, on ne peut pas prendre le pays. Et c'est pourtant un commandement de Dieu de le prendre. Alors voyez, il y a tellement de choses. Alors ensuite Caleb dit, je donnerai ma fille Aska pour femme à celui qui battra Kiryat Sefer et qui la prendra. Et Otniel, ça veut dire réponse de Dieu, C'est incroyable. Fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna sa fille, Aksa, ça veut dire intelligence. Voyez, il y a tellement de richesses dans ce texte, dans cette histoire de Caleb. Et puis cette fille, voyez, il a dit, moi je vais, Othniel, il a de la même trempe qu'un Caleb, hein, sauf qu'il était plus jeune. Alors lui, il s'est battu pourquoi ? Mais pour avoir la fille. Eh oui, pas fou. Et en fait, la vraie motivation du combat, ça ne doit pas être la puissance, mais ça doit être l'amour. Et c'est ça, c'est l'amour pour Jésus. C'est l'amour de Dieu qui fait que l'on combat. Il y a des gens qui combattent pour faire un empire. Et parfois, dans nos milieux évangéliques, on peut avoir cette motivation de bâtir un empire. Et moi je bénis le Seigneur quand les choses prennent de l'importance, quand il y a une influence éducative, politique et tout ça. Mais attention à la motivation qui est derrière. Si c'est bâtir son royaume, alors on est des petits Constantins, quoi. Mais si c'est Seigneur, bâtis ton royaume à toi, alors on bâtit le royaume de Dieu, voyez. Et puis alors cette fille, elle demande des sources inférieures, les sources supérieures, vous savez, et ça nous parle, bon, on pourrait dire beaucoup, mais il est dit dans 1 Timothée 4:8, la promesse de la vie présente est celle qui est à venir. Ça veut dire aussi les choses du passé et les choses de l'avenir. Ça veut dire les sources qui viennent de la terre, ça veut dire les sources de cette sagesse que Dieu donne aux hommes, qu'il veut confronter à sa révélation qui vient du ciel. Les dons naturels que tu as, qui doivent être complétés et sanctifiés par ce qui vient dans le ciel. Et toutes ces sources-là, le champ qu'elle a reçu, cette fille, c'était un désert. Alors, elle était bien contente d'avoir comme cadeau de mariage un petit bout de désert, mais quand même, elle dit, il faudrait de l'eau. Alors, il faut mettre de l'eau. Et vous voyez, parfois, Dieu, alors c'est toujours pareil. Il dit, mais à toi de demander, à toi d'y aller. Et à nous de demander les sources, quand c'est des choses de désert. Donc, voilà un peu Caleb, l'esprit qui est en Caleb, voyez, qui est l'esprit vraiment de Dieu en chacun de nous. Voilà un peu les victoires qu'il a remportées, les personnes qu'il a battues, la ville qu'il a reçue. Et toute son histoire nous parle aussi de notre histoire. Et c'est ça qui est tellement touchant dans cette parole de Dieu, c'est qu'elle est éternelle et que le Christ qui est Josué, notre Josué d'aujourd'hui, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut nous faire comprendre par ce texte que cette montagne d'Hébron, il nous la donne. Mais à nous de la demander avec foi et dire « Donne-moi cette montagne, donne-moi ce pays, parce que c'est toi qui veux nous le donner. » Donc on veut le recevoir de toi, on veut le prendre et on veut chasser tous ces ennemis-là pour qu'une autre sagesse vienne au milieu de nous, que d'autres fruits viennent au milieu de nous et que la passion pour son amour, eh bien, la passion de son amour puisse nous embraser chacun et que l'esprit de Caleb, ce ne soit pas seulement le nom d'une association, mais ce soit véritablement un état d'esprit dans lequel nous rentrions. Et que les bons amis qui étaient Josué et Caleb restent bons amis au milieu de nous, même s'il y a des responsabilités différentes et autres, mais qu'on puisse travailler dans une synergie extraordinaire ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, tellement, tellement riche, Seigneur, tellement profonde, tellement... Il y a toujours des choses à creuser, à retrouver, à découvrir. Seigneur, ma prière, c'est que l'esprit de Caleb, l'esprit de Josué soit vraiment en nous, Seigneur, nous anime dans ce que nous disons dans les temps à venir, dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons. Seigneur, nous te prions que le terrain que tu as préparé pour nous, nous puissions le prendre avec audace, avec joie, avec foi, pour que ça soit une source de bénédiction, non pas pour nous, Seigneur, seulement, mais vraiment une source de bénédiction pour toute cette ville et cette région. Seigneur, élargis nos cœurs. Merci d'élargir l'espace de nos tentes. Merci d'affermir nos piquets. Et merci que la foi de Caleb, qui était animée d'un autre esprit, eh bien soit notre lot aussi à chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen.